السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، on s'arrêtait la dernière fois, toujours dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam essaye de rassembler autour de lui le maximum de compagnons qui étaient encore sur le champ de bataille en train de résister. Il les rassemble autour de lui et il essaye tout doucement de se frayer un chemin avec eux jusque à ce qu'on appelle Shi'ab al-Jiral. C'est une crevasse, une sorte de gorge très exiguë, un petit sentier qui ramène dans la montagne de Uhud. Et on a dit que le prophète a donc réussi, difficilement, avec beaucoup d'obstacles, mais il a réussi, qu'à ce moment-là, Ubay ibn Khalaf va tenter de tuer le prophète, et c'est le prophète qui va lui donner un coup, ou plutôt qui va le repousser en lui faisant une petite griffure avec la pointe de sa lance, et que finalement il finira par mourir de cette blessure, comme on l'a expliqué. Ensuite, on a cité le poème de Hassan ibn Thabit radiallahu anhu, qui a entre guillemets voulu, à travers ses rimes, laisser dans l'histoire de la poésie une trace de cet événement. Et il disait dans un de ses poèmes: Ala man mublirun anni ubayya, laqad ulqita fi suhqi sa'iri, tamannika al-amani min ba'idi wa qawlu al-kufri yarji'u fi ghururi, faqad laqadka ta'natun min dhi hifadhi, karimi al-bayt laysa bidhi fujuri, lahu al-fadlu ala al-ahya'i turran, idha nabat mulimmatu al-umuri. Grosso modo, il dit ici que qui va transmettre à Ubay ibn Khalaf, qui va être tué, qui va mourir, alors qu'il avait promis, qu'il s'était engagé, qu'il c'est lui qui allait tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il avait, comme on avait expliqué dans une version, on nous disait qu'il engraissait une monture, un cheval, et qu'il ne l'utilisait pour aucune tâche, pour aucun travail, parce qu'il disait: je l'engraisse uniquement pour le jour où je serai dessus, pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, c'est en étant dessus qu'il va mourir, en ayant reçu simplement une petite griffure de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui lui a mis cette griffure pour se défendre, parce qu'Ubay ibn Khalaf, il est venu pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ala kulli hal, on a également cité la semaine dernière, on a parlé la semaine dernière de le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après être arrivé dans cette crevasse, dans ce sentier, il n'est pas totalement dans un refuge, ni lui ni ses compagnons, parce que ils sont dans une crevasse, donc les idolâtres peuvent grimper les rochers et essayer de viser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui sont dans ce sentier. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à ses compagnons d'escalader
Sur les rochers.
Sachant que sur les rochers, éparpillés sur la montagne de Uhud, il y a déjà des compagnons. De qui s'agit-il ? Il s'agit d'une partie de ceux qui ont abandonné le combat au moment où ils vont entendre l'information, plutôt la rumeur, qui indique que le professeur Salem a été tué. Et donc le professeur Salem les rassemble aussi et il les rejoint. Et on avait dit que le témoignage de ses compagnons, il dit que au moment où ils vont voir le professeur Salem grimper pour les rejoindre, tout ce qu'ils ont vécu ce jour-là, tout ce qui les a atteints comme épreuve, c'est comme si il n'y avait plus rien. Le bonheur est revenu parce qu'ils retrouvent le professeur Salem. Pour eux, la pire des choses, c'était que le professeur Salem était mort. Peu importe que la bataille soit perdue, peu importe ce qui va advenir de la ville de Médine, de leur famille, ce qui était le plus grave, c'est qu'ils aient perdu le professeur Salem. À partir du moment où finalement le professeur Salem est vivant, alors peu importe. Comme ils disent, hein, le proverbe dit quoi ? Après moi le déluge. Ça, c'est pour les égoïstes, ils pensent qu'à eux, le reste, après moi le déluge. C'est une mauvaise expression. Par contre, s'ils avaient dit après le professeur Salem le déluge, à la rigueur, pourquoi pas ? Et c'est d'une certaine manière ce que ses compagnons expriment. C'est-à-dire, il peut se passer ce qui va se passer. Il peut y avoir même l'apocalypse universelle. Ce qui compte, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aille bien. Et ça, c'est le sommet. Les grandes hauteurs spirituelles, dans les degrés qu'on a, d'amour qu'on doit éprouver pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ensuite, on a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux armures et que bon, il avait été blessé de plusieurs graves blessures. Et que donc ça a été difficile pour lui d'escalader. Et donc Talha ibn Ubaydillah, immédiatement lorsqu'il va voir que c'est difficile pour le professeur sallam d'escalader, il va se mettre en dessous de lui pour que le professeur sallam pose ses pieds sur son dos et qu'il cède du corps de Talha ibn Ubaydillah pour pouvoir escalader les rochers. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est à ce moment-là, selon certaines versions, que le professeur sallam va dire Aoujaba Talha. Non. Ensuite, on a parlé également d'une version qui est ici moins authentique, mais on l'avait quand même citée, c'était la flèche bénie de Saad. Le professeur Sam va lui dire, parce qu'il y a des idolâtres qui essayent de grimper les rochers pour les attraper, et pour, on va dire, combattre cette dernière poche de résistance. Et le professeur Sam va dire, vise-les avec tes flèches. Et il va les viser. Non. Mais il n'a qu'une flèche. Et à chaque fois, il vise pour toucher. Il reprend sa flèche, il vise et il atteint sa cible. Il vise et il atteint sa cible à un tel point qu'il, quand il va récupérer cette flèche à la fin de la bataille, et il va la garder toute sa vie, en disant c'est une flèche « Hada sahmun mubarak ». C'est une flèche bénie. Une flèche dans laquelle il y a la bénédiction, il y a la baraka dans cette flèche. Non. Ensuite, on a cité qu'il va y avoir une dernière attaque des idolâtres, tentative de prise de la montagne. Donc il faut se mettre à la place des idolâtres. Ils ont commencé la bataille dans une défaite. Finalement, grâce à leur cavalerie, à la tête de laquelle il y avait Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, qui à ce moment-là n'est pas encore converti, ils vont réussir à reprendre la main et à prendre en étau l'armée musulmane. Et donc ça va être la confusion, la débandade chez les musulmans. Et les derniers résistants, les derniers qui luttent autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si les idolâtres eux-mêmes ne savent pas, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant ou il est mort ? Ils ne le savent pas, ça on va le voir après. Que eux-mêmes ne savent pas. Parce que parmi eux, il y a des gens comme Ibn Qami'a qui jurent avoir tué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou comme Utba ibn Abi Waqqas. Ils sont persuadés d'avoir tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a, si on rassemble, alors c'est compliqué parce qu'à chaque fois je vous dis, il faut regarder ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Mais si on ne fait pas de distinction entre ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, et qu'on regroupe toutes les versions qui existent sur le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tomber dans le trou et qu'il va être blessé, etc., qu'il va être pris en étau, si on regroupe toutes les versions, on peut faire un résumé et dire que le prophète Mohammed, à ce moment-là, il a réfléchi à comment se préserver et comment préserver les compagnons. Comment se préserver ? Eh bien, on a des versions, même si elles n'ont pas été authentifiées, qui nous indiquent que le prophète va échanger certains de ce qu'il a avec certains de ses compagnons. Le casque, l'armure, le bouclier, l'épée. Il y en a quand on est dans un champ de bataille qu'on est en train de combattre, on reconnaît difficilement la personne. Il y en a, il est habillé d'une manière différente, il y a tous des engins, une armure, un casque. Non. Donc on ne reconnaît pas bien la personne. Par contre, lui, il peut nous reconnaître, sinon on est habillé normalement comme d'habitude. C'est comme quand quelqu'un est au travail et qui a un uniforme spécial pour le travail, avec son casque, etc., son gilet, les bottes, les... Tu ne l'as jamais vu comme ça, avec sa tenue de travail. Tu vas le rencontrer, il va dire, salam alaikum, qu'est-ce qu'il va faire ? Je lui dis, non, 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 non. Quand il va se rapprocher, ah, subhanallah, je ne l'ai pas reconnu. Mais il faut qu'il s'approche, que tu revois le visage, ah. Mais comme ça, de loin, tu le regardes en entier, tu le reconnais pas. Il y a le casque, il y a l'uniforme, le... Subhanallah, taïm. Et donc ici, c'est la même chose, et c'est pour ça que le professeur Salam, il a utilisé cette ruse. Selon, quand je vous dis, on prend toutes les versions. Et aussi, il va réfléchir à comment mettre sous protection le restant des compagnons. Comment ? Ben ça, c'est avec la dernière étape qu'on a vue, lorsque le professeur Salam les amène vers Shi'ab al-Jirah, par le sentier de Jirah. Vous voyez ? Non. Donc, le prophète Mohammed, donc les idolâtres, pour eux, si on se met à leur place, ils ont réussi à reprendre la main. Ils veulent à tout prix une chose. Tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les idolâtres n'ont que cette idée en tête depuis quand ? Depuis le jour où ils ont osé. Et là aussi, si on résume comment les chefs idolâtres de la Mecque réagissent avec le prophète Mohammed, au début, ils exigent de lui qu'il se taise. Ensuite, ils passent aux persécutions. Ils font du mal au prophète directement, et ils lui font du mal indirectement. Directement, ben, ils le poussent, ils le bousculent, il y a eu des tentatives d'étranglement, on lui jette dessus, sur lui des choses quand il prie, etc. Certains lui ont même craché dessus, bref. Et indirectement, on lui fait du tort, comment ? À travers ses compagnons les plus faibles qu'on torture, pour le faire culpabiliser. Et ça, humainement, c'est pas facile. Et quelqu'un, il te suit, il suit ton message. À toi, on ne peut pas te toucher, on ne peut pas te faire autant de mal qu'on fait à eux parce qu'il y a ton oncle qui te protège. Eh bien, regarde ceux qui te suivent, regarde ce qu'on leur fait. Et c'est de ta faute, parce que tu continues à exposer ton message et à transmettre ton message. Non. Ensuite, ils vont lui faire du mal directement à lui et à ceux qui le protègent, même s'ils sont idolâtres comme son oncle, en les mettant sous embargo. Et ensuite, lorsqu'ils vont enfin oser prendre la décision, au bout de 13 ans qu'ils n'ont jamais osé prendre, c'est-à-dire, ils vont dire « tuons-le ». À chaque fois, ils avaient cette idée en tête. « Tuons-le et on sera débarrassé de cette religion ». Mais ils se disaient non, parce qu'ils réfléchissaient aux conséquences. Ils disaient « ça va faire plus de graves conséquences que de... il y a plus de mauvaises conséquences que de bénéfices à le tuer ». Il y en a, ce sera des guerres tribales, des guerres civiles. Et finalement, au bout de 13 ans, ils arrivent à un point et ils se disent, peu importe ce qui va se passer. Et en plus, ils vont se prémunir des mauvaises conséquences en réunissant une personne de chaque tribu. Et ils leur donnent l'ordre, chacun, de frapper en même temps le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un coup de lame, pour que s'il y a une histoire de vengeance, ils leur disent, toutes les tribus ont participé. Puisque c'est un représentant de chaque tribu qui a tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas déclarer la guerre à toutes les autres, et donc ils se contenteront d'une somme d'argent, hein, ou de l'or, ce qu'ils veulent, peu importe, en échange du prix du sang, juste qu'on en termine. Donc il faut bien comprendre que maintenant la politique des idolâtres, c'est tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors bien sûr, nous on a dit que dans la suite des événements, ils sont là pour se venger de la bataille de Badr et tout ça. Oui, mais tout ça, c'est pour remplir un objectif principal, c'est tuer, éliminer physiquement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont essayé de dissuader les gens de son message, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé par le débat, par la polémique, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé par la dissuasion, ils n'ont pas réussi. Par les menaces, ils n'ont pas réussi. Par la torture, la persécution, ils n'ont pas réussi. Par l'exil, ils sont partis en Abyssinie, certains, ils n'ont pas réussi. Par l'expulsion, certains étaient rejetés de la ville de la Mecque, ils n'ont pas réussi. Et donc ils se disent au final, il n'y a qu'une chose qui va nous servir dans cette histoire, c'est nous débarrasser physiquement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il n'est plus là, il ne pourra plus faire ce qu'il fait. Et donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait réussi à se réfugier dans le sentier, dans Shi'ab al-Jarar, et à se réfugier sur la montagne de Uhud, ça leur pose un problème. Alors certes, eux aussi, ils sont dans le doute, est-ce qu'ils ont réussi à le tuer ou pas, puisque parmi eux, il y a des gens qui disent, c'est sûr, c'est moi, je l'ai tué. Il est mort. Comme Abdullah ibn Qamila. Mais ils veulent en avoir le cœur net. Et comme ils n'arrivent pas à reconnaître les gens de loin, le seul moyen d'en avoir le cœur sûr, d'en avoir la certitude, c'est qu'ils savent. Le prophète a été reconnu dans le dernier groupe qui se battait quand il est tombé dans le trou, etc. Certains disent qu'ils l'ont tué, d'autres ils disent c'est pas sûr. Et ils savent que ce dernier groupe, il est parti se réfugier dans la montagne d'Uhud. Donc, l'équation, elle est simple. Si on arrive à éliminer toutes les personnes du groupe qui sont parties se réfugier sur la montagne, c'est sûr et certain qu'on sera débarrassé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc on sera débarrassé de son message et de sa religion. L'équation, elle est là. Et c'est pour ça qu'ils vont tenter de monter sur la montagne. Mais la montagne, alhamdoulilah, comme les compagnons, ils sont montés sur les rochers et qu'ils sont en hauteur, même s'ils sont fatigués, même s'ils sont moins nombreux, ils ont l'avantage de la hauteur. Et c'est une montagne, pour tous ceux qui ont été, c'est pas une montagne de randonnée, regardez. C'est une montagne, c'est pour les alpinistes, il y a pas, c'est difficile, c'est pas une montagne facile à grimper. Non. Et donc, ils vont tenter une dernière attaque qui va être menée par Abu Sufyan et Khalid ibn al-Walid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander aux compagnons de défendre la montagne. Et donc, dans cette version, on nous explique que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lui, il va prendre un groupe des compagnons de Mecca, Muhajiroun, et ils vont défendre la montagne à un tel point qu'ils vont réussir à dissuader définitivement les idolâtres d'essayer de monter sur la montagne de Uhud. Parce qu'à chaque fois, ils arrivent à les toucher. Et donc, les idolâtres, à ce moment-là, ils se disent « on a gagné ». Et on a une grande probabilité d'avoir tué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un doute, mais il y a quand même une forte probabilité pour eux, c'est presque sûr qu'il est mort. Il reste quelques personnes qui résistent sur la montagne, mais c'est pas qu'ils résistent pour eux, ils disent on a gagné la bataille. Et donc si on s'obstine, comme ils ont l'avantage de la montagne, on risque que le vent tourne. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que pour eux, il y a quelque chose qui reste. Derrière, c'est quoi ? La ville de Médine. Et il y a une menace, c'est qu'ils savent qu'il y a des compagnons qui ont fui vers Médine, et donc qui sont partis à Médine. Eux, ils ne savent pas, est-ce qu'ils ont fui ? Est-ce que pour eux, il y a une éventualité, c'est soit ils ont fui, et puis c'est tout. Et la deuxième éventualité, c'est qu'ils sont partis à Médine pour chercher du renfort, pour demander de l'aide. Et donc, il n'y a plus de temps à perdre sur ce qu'il faut faire maintenant. Soit on attaque la ville de Médine, soit on prend nos jambes à nos coups, et on se contente de cette victoire. Aïwa. Et on verra plus tard ce que les idolâtres vont prendre comme décision. Donc nous, pour l'instant, on s'intéresse à ce qui va se passer sur cette montagne. Le professeur s'est mis à escalader les rochers. Et on avait dit que Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, va, dans une version non authentifiée, lui proposer de l'eau qu'il lui ramène dans un casque. Le professeur va l'approcher de lui et qu'il va sentir dedans une odeur dans l'eau. Et donc il ne va pas la boire, hein, comme on avait expliqué. Il n'y a pas d'eau là directement. Donc on a de l'eau, mais chacun il s'est passé l'eau, on l'a mis dans un casque, ça s'est mélangé à des choses, etc. Donc c'est plus une eau qui est si bonne à boire, mais c'est tout ce qu'on a. Et donc c'est tout ce que le compagnon Ali peut proposer au professeur. Le professeur Asim ne la boit pas, mais il utilise cette eau pour nettoyer ses blessures qui coulent encore de sang. Et on a une autre version qui est citée par Mubarak Fouri dans son livre Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté ou le joli outil, dans lequel il nous dit, mais il ne donne pas la source. J'ai essayé de chercher cette source dans d'autres ouvrages, je ne l'ai pas trouvée chez d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, évidemment, le Mubarak Fouri, s'il la ramène, il l'a bien trouvée quelque part. Mais en tout cas, comme il ne la cite pas, moi, personnellement, je n'arrive pas à la trouver. Mais en tout cas, il cite une source dans laquelle il dit, il cite un texte sans citer la source dans laquelle il dit, ou dans lequel il dit, « وَجَاءَ مُحَمَّدْ إِبْنُ مَسْلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ عَذْبٍ سَائِرٍ فَشَرِبَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَ لَهُ بِالْخَيْرِ » Muhammad ibn Maslama, le compagnon Muhammad ibn Maslama, vous rappelez de lui, radiyallahu anhu. C'est celui qui s'était occupé de Ka'b ibn al-Ashraf. Na'am, ala kulli hal. Pour ceux qui se rappellent plus, c'est qui Muhammad ibn Maslama, je vous renvoie sur internet aux audios sur l'événement de Ka'b ibn al-Ashraf entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud. C'est un des événements qui va se passer entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud, la Médine. Na'am, ala kulli hal, il va nous proposer de l'eau, adbin, de l'eau douce. Sa'irin, agréable. Fasharibam minhu Nabi sallallahu alayhi wa sallam va en boire. Wada'a lahu bil khayr. Il va invoquer les faveurs d'Allah, le bien en sa faveur. Qu'est-ce qui va se passer sur ce rocher? Donc on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être abreuvé selon cette version dont on ne peut pas affirmer qu'elle est authentique, puisque personnellement je n'ai pas la source pour pouvoir dire s'il a été authentifié ou pas. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose qui est authentique, qui a été authentifié. Et qui est d'abord authentique parce que c'est cité dans le Coran. Il va se passer quelque chose qui est authentique. Alors nous, le Coran, il nous dit que ça s'est passé dans la bataille de Uhud. Mais il ne nous dit pas que ça s'est passé sur la montagne de Uhud. Ça, c'est les versions après dans les hadiths, comme je vous l'expliquais, qu'ils le disent. Mais en tout cas, cet événement a eu lieu à la bataille de Uhud, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui va se passer de manière certaine? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran, le verset 154, « Thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi, thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asa, yaghsha ta'ifatan minkum, wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية. الله عز وجل ينديسي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. Et ensuite après la dureté, la peine, l'affliction, Allah va faire descendre sur vous أمنة نعاسة. Et l'amana, c'est quoi? C'est la tranquillité, la sécurité, l'apaisement. Allah fait descendre sur vous après la lourdeur de l'événement, la gravité, le malheur. Juste après, il fait descendre sur vous quoi? Al-amana, la tranquillité, l'apaisement. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que quoi qu'il arrive dans notre vie, Ce qui compte, c'est d'être apaisé face à cet événement, de garder son sang-froid. Celui qui cherche à ce qu'il ne lui arrive jamais de problème dans sa vie, il se trompe de combat. C'est un combat perdu d'avance. Ça ne veut pas dire qu'il doit abandonner et laisser tout lui tomber dessus, même quand il peut l'en empêcher, non. Mais celui qui pense que pour être heureux, c'est n'avoir jamais aucun problème, il se trompe de combat, il a perdu à l'avance. Par contre, celui qui a compris où se trouve le véritable bonheur dans la vie d'ici-bas, c'est d'essayer d'éviter évidemment les problèmes tant que se peut. Mais s'il n'y arrive pas, s'il y a certaines des choses qui vont l'atteindre, il ne peut pas faire autrement, c'est d'adopter une posture où il va être apaisé. C'est-à-dire, il dit quoi ? Alhamdulillah. Au minimum, il dit Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah dans n'importe quelle situation. Ça nous vient d'Allah, Allah l'a permis, donc Alhamdulillah. Et c'est ça qui va se passer d'abord sur les rochers. À un moment où on est isolé de la ville de Médine, on ne sait pas ce qui va advenir de la ville de Médine, qu'est-ce que ces gens-là vont faire. On a des blessés sur le champ de bataille qui sont en train d'être achevés par nos ennemis. On a des frères, des pères, qui sont morts, des fils qui sont là sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'ils vont faire des corps ? Ça, on va en discuter plus tard. On est envahi par toutes sortes de problèmes quand on est sur cette montagne. Et pourtant, Allah, il dit quoi ? ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ. Et Allah a fait descendre sur vous après le problème, après la calamité. Amanatan. La sécurité. Voilà le hal. Ça, c'est la solution pour n'importe quelle personne dans la vie. Ce qui compte, c'est pas d'avoir le problème. Ce qui compte, c'est pas de ne pas avoir le problème. Ce qui compte, c'est comment tu es face au problème. Est-ce que tu es tranquille, apaisé? Parce que tu as ta certitude en Allah que tout est écrit par Allah Azza wa Jal. Que tout est voulu, permis par Allah Azza wa Jal. Et le professeur Hassan nous rassurait en disant quoi ? En disant Allah Azza wa Jal a écrit la destinée de chaque création, de chaque créature, de chaque être humain 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. On est quoi, nous, par rapport à l'univers ? On n'est rien. On est insignifiant. On n'existe pas. On n'est rien par rapport à l'univers. Par rapport à la Terre, déjà, la Terre, elle est gigantesque. On sait que la Terre, elle est ronde. Enfin, normalement, puisque, encore aujourd'hui, il y a des gens qui défendent que la Terre, elle est plate, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que je sais que les rares fois où j'ai osé dire ça, j'ai quand même des personnes qui viennent qui disent « Ouais, mais quand même, voilà, il y a un truc. » Les premiers à avoir démontré par argument que la Terre elle est ronde, c'est les savants musulmans. Et aujourd'hui, c'est les premiers à dire non, elle est plate, c'est un mensonge depuis des siècles. C'est qui ? C'est des musulmans qui vont sur les réseaux sociaux, je ne sais quoi. Vous savez, les premiers musulmans, comme Ibn Hazm, l'Andalousi, Ibn Hazm, l'Andalou, c'est une chose simple. Quand on lui a dit, mais qu'est-ce qui te fait dire que la Terre, elle est ronde ? Comment on peut entendre certains aujourd'hui ? Washington, t'es parti là-bas tout au-dessus dans le ciel et t'as regardé, tu l'as vu aller. À l'époque, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on peut, on a des photos. Il y en a qui sont dans les satellites, ils voient la Terre de loin, ils prennent des photos, et même comme ça, les gens ne croient pas, ils disent, ouais, mais il y a Photoshop. Ah, c'est mahliya. Ibn Hazm, il répondait une simple chose à l'époque. Il disait, regardez, dans le ciel, le soleil, il est carré, il est rectangle, il est triangle, ou il est rond ? Ah, il est rond. Ah, le soleil, vous le voyez, il est rond. Ah, regardez la lune la nuit. Elle est triangle, elle est rectangle, non, elle est ronde. Regardez les astres, les planètes, les étoiles. Ils ont quelle forme ? Tout est rond. Il disait, ça, c'est simple. Ça suffit pour te démontrer qu'Allah Azza wa Jal, il a fait une sunnah. Il a décidé que tous ces astres, qu'il a mis sur, dans l'univers, il soit de cette forme-là. Pourquoi pas la Terre? Déjà, juste pour commencer, avant de sortir tous les autres arguments. Ajib, yani. C'est en regardant dans le ciel les autres choses que j'arrive à démontrer que... Chauffe, yani. Fitma. Non. À la kulihan. Pourquoi je suis parti, moi, sur la Lune, sur le soleil? N'site. Non. Pourquoi on a parlé de ça? Faites-moi revenir à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous ai perdu, hein? Par rapport? Non. C'est-à-dire? Donc on a dit? Non. Non. Barakallahu fik, non. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. Donc Allah Azza wa Jal dit ici, et il a fait descendre sur vous, après le problème, la sécurité. Ah. Et ensuite il dit, نعاسا. نعاس, c'est quoi نعاس? C'est un النوم الخفيف. Le fait de dormir, mais le, ce qu'on appelle nous aujourd'hui la micro-sieste. Ah. Naam. Voilà, somnolé. Même si somnolé, ça a un sens péjoratif médicalement, c'est même une maladie, on considère que c'est une maladie. Mais c'est vrai qu'on peut le comprendre comme ça, la somnolence. Le fait de dormir, mais d'avoir conscience de ce qui se passe autour, et tout le monde, tous ceux qui ont déjà essayé la chose, hein, ceux qui ont déjà expérimenté ça, tu peux être en dette d'heures et d'heures de sommeil, extrêmement fatigué. Et subhanallah, si tu fais une petite micro-sieste de 10 minutes, un quart d'heure, ah, t'es refait, comme ils disent. T'es totalement refait. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, même les médecins, ils conseillent la micro-sieste. Dans certains cas, ils conseillent la micro-sieste et de ne pas s'aventurer à une longue sieste dans la journée. Pourquoi? Parce qu'il y a des, le sommeil, on sait maintenant qu'il y a des cycles. Et si on se réveille dans un mauvais cycle, dans un mauvais moment du cycle, eh bien, on sera encore plus fatigué que la normale. C'est pour ça que certaines personnes, ils dorment toute la nuit, ils disent, je me suis réveillé, j'étais totalement cassé. Allah, j'étais totalement cassé, l'Yanna, il s'est réveillé à un moment où il ne fallait pas se réveiller. Il y a des cycles dans le sommeil, et si tu te réveilles à la fin du cycle, c'est bon. Tu sens que tu es en forme. Si tu te réveilles en plein milieu d'un cycle, ils disent que les cycles, je pense que ça dure à peu près 90 minutes, si je ne me trompe pas. Une heure et demie. Donc si tu t'arrêtes vers la fin du cycle ou le début d'un cycle, ça va. Si tu te réveilles au milieu du cycle, c'est-à-dire quand ton sommeil est profond, à ce moment-là, tu as l'impression que c'est comme si tu n'avais rien dormi. L'yanna, ton corps, il n'y a pas shiba. Il y a besoin encore. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu d'un cycle et il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Et la micro-sieste, tu te réveilles au début d'un cycle, en fait. C'est ça la micro-sieste. Al-Nu'as, ce qu'on appelle en arabe Al-Nu'as, Naum al-Khafif. Et donc, moi je ne vais pas en bas parce que je suis parti dans le. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce verset nous dit quoi? Il nous dit Allah Azza wa Jalla leur a fait descendre sur eux la sécurité et le Nu'as, la micro-sieste. Ils ont fait une micro-sieste à Ibadullah, sur le rocher. Qu'est-ce qui se passe à... Qu'est-ce qui va se passer à Médine? La bataille, elle est perdue. Elle... Je vous ai dit tout à l'heure, après le prophète Hassan, le déluge. Il y a un année, quand ils ont vu le professeur sallam, il y a même une version qui dit Lamma ra'aynahu farihna wa ka'annahu lam yusibna ma asabana. Lorsque nous l'avons vu du, par-dessus la montagne, qu'il escaladait le professeur sallam la montagne, c'est comme si tout ce qui nous a atteint, il nous a pas atteint. Khalas, tout le reste c'est bon. Et Allah, on peut aller dormir maintenant, on peut faire la sieste. Alors certes, c'était qu'une micro-sieste dont ils avaient beaucoup besoin après tout ce qui s'était passé. Mais c'est Allah qui leur a donné. Qui va envelopper, qui va atteindre une partie d'entre vous. Alors qu'un autre groupe, pendant que vous étiez en train de faire votre micro-sieste, il y a un autre groupe parmi vous. Qu'est-ce qui leur est arrivé à eux pendant que vous étiez en train de faire votre petite sieste, tranquille?
قد أهمتهم أنفسهم.
Ils étaient obstinés, focalisés sur leur personne, sur leur ego.
قد أهمتهم أنفسهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية.
Et ils pensaient d'Allah des choses qu'on ne devrait pas penser comme dans la jahiliya, c'est-à-dire Allah nous a abandonné, Allah nous a puni, Allah nous a fait, c'est tout. Et ça, le Mufassirun nous dit, cette deuxième partie qui n'a pas fait la sieste, ils ne sont pas sur la montagne de Uhud. C'est les hypocrites. Parmi ceux qui ont fui, il y a des hypocrites. Et parmi ceux qui n'ont même pas participé au combat dès le début et qui sont partis avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul, vous vous rappelez qu'il y a un groupe qui avait quitté l'armée du prophète Sassim avant même d'arriver à Uhud en disant mais non, il n'y aura pas de combat et que parmi eux, il y avait beaucoup d'hypocrites. Eh bien, les exégèses, ils nous disent, cette partie du verset concerne ces gens-là. C'est eux qui ne vont pas être touchés. Allah Azzawajal, il dit, vous n'avez pas la sieste. Ils n'ont pas combattu, mais ils n'ont pas non plus la sieste. C'est-à-dire, ils n'ont pas non plus la sécurité intérieure. Ah, c'est vrai, ils n'ont pas combattu. Mais, ils ne sont pas en paix. Alors que ceux qui ont combattu et qui ont perdu, qui ont été blessés, certains sont paralysés, d'autres ils ont été tués, ceux-là qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la tranquillité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est comment tu... quelle posture tu adaptes face aux événements tragiques dans ta vie. Non. Donc cet événement, il est arrivé à Uhud. Et on peut également citer des versions qui sont authentiques dans le Bukhari Muslim. On a par exemple une version dans Sahih al-Bukhari qui nous dit, donc elle est authentique dans Sahih al-Bukhari, An Abi Talha radiallahu anhu, كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط السيف من يدي مرارا آخذه يسقط عفوا يسقط وآخذه فيسقط وآخذه. Donc ici cette version nous dit quoi, qui est authentifiée dans le Bukhari, c'est le compagnon Abu Talha, il dit j'ai fait partie de ceux qui ont été enveloppés par la sieste, par la somnolence le jour de Uhud, à un tel point que mon épée tombait de mes mains. Et il faisait la sieste, il commençait à s'endormir et l'épée elle tombe. C'est la micro-sieste. Et dès qu'il y a quelque chose qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles. Ça, c'est la micro-sieste, c'est la somnolence. Mais le sommeil, comme ils disent, c'est le sommeil, il peut se passer ce qui va se passer. Il peut même avoir zelzel. Agib. Et après, c'est chacun comment il est son sommeil. Quand il y a eu le tremblement de terre, il y a quelques mois au Maroc, Agib, il m'a raconté l'histoire d'un homme. Ça, c'est... son enfant qui le raconte, Yarni, c'est pas Yarni chez eux, c'est juste une rumeur. Son enfant, il me raconte, il me dit, bah, quand il y a eu le... je me suis réveillé le matin, j'ai vu qu'il y a eu Zelzel, mon père il est au Maroc, donc je l'appelle. Ça va? Alhamdulillah, ça va, Alèche. Il est loin, il est dans le... qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, bah, il y a un tremblement de terre, il y a des morts. Ils sont venus me réveiller pendant la nuit, ils m'ont dit, il y a un tremblement de terre, je leur ai crié dessus, je leur ai dit, laissez-moi dormir, qu'est-ce que vous venez me déranger? Il n'a pas ressenti, tellement il était dans son sommeil profond. Et il a même, il dit, moi je me suis même pas rappelé que j'ai crié sur les gens. Les gens ils sont venus, ils l'ont réveillé, ils disent, allez, ça, il y a le tremblement de terre. Il leur a couru après, bougez, laissez-moi dormir, que personne ne vienne s'approcher de moi. Et comme ils le respectent, avec son âge, etc., ils ont peur de lui, ils l'ont laissé là, Et en plus, peut-être ils avaient le khawf, ils avaient peur, donc ils ont préféré se sauver eux. Ils se sont dit, si on commence à essayer de le réveiller, tout il va s'écrouler sur nous. Et finalement, alhamdoulilah, il ne leur a rien arrivé à leur maison. Il leur est resté, il dormit tranquille jusqu'au lendemain matin. Il n'a qu'un wahad avec son sommeil. Et lui, finalement, il concluait, ce père, cet ancien, il disait quoi? Il disait, quoi, Zarma? Non, qu'est-ce qui va arriver? On va mourir. C'est que c'était écrit. Et quelqu'un qui va échapper à sa mort si elle arrivait. Ah, c'est vrai, mais le hajj, il faut quand même faire l'asma. Il faut quand même faire les causes. Et donc, Abu Talha nous dit, mon épée à un tel point que mon épée est tombée à de nombreuses reprises. Je la ramassais, elle tombait, et je la ramassais et elle tombait. Il veut dire quoi? Il veut dire, voilà, je m'endors, l'épée elle tombe, je la ramasse. Je me réveille, je la ramasse et je me rendors. Ah, ouais, c'est des multitudes comme ça de micro-siestes de somnolence. Il a décrit en tout cas ce nu'as qui est cité dans le Coran de cette manière. Dans l'authentique de Muslim aussi, on a une version authentique de Muslim, où c'est Anas ibn Malik radiallahu anhu qui nous dit, lorsqu'il y a eu le jour de Uhud, la bataille de Uhud, et qu'une certaine partie de compagnons sont partis, il dit, j'ai vu des compagnons être enveloppés par la fameuse somnolence qui est citée par le Coran. À un tel point que j'ai vu l'épée d'Abu Talha tomber de ses mains deux ou trois fois à cause de cette somnolence. Non. Après, on a d'autres versions qui ne sont pas forcément authentifiées, mais déjà, tout ça, c'est suffisant pour dire que cet événement est largement vérifiable. Les autres versions, on pourrait citer par exemple une version dans Tirmidhi, où c'est justement toujours le compagnon Abu Talha radiallahu anhu qui nous dit Ja'altu anzuru, donc il dit le jour de Uhud, je me suis mis à regarder. Il dit je me suis mis à regarder. Donc cette version, qu'est-ce qui ressort de cette version? C'est qu'il dit je me suis mis à regarder. Fama minhum yawma idhin ahadun illa yamidu tahta hajafatihi min an-nu'as. Je me suis mis à regarder les compagnons sur le rocher le jour de Uhud, sur la montagne de Uhud, et il n'y en avait pas un seul qui ne penchait pas, qui ne penchait pas à cause de la somnolence. Non. Il est yamidu. Yamidu, les linguistes nous disent, ça veut dire c'est comme yamilu, se pencher, tomber. Tahta hajafati. Le hajafa, c'est le casque. Non. Ensuite, on pourrait. On va se contenter là de ça pour les versions. Qu'est-ce que ça nous indique, cet événement? Cet événement, comme on l'a dit tout à l'heure, il nous indique tout d'abord que les compagnons sont tranquilles. Ceux qui sont sur le rocher, ils sont tranquilles. Mais ils le sont d'abord parce qu'ils le sont sincèrement. Imaginez quelqu'un qui a des problèmes, qui est stressé, qui est sous pression à cause des problèmes et qui est en manque de sommeil. Est-ce qu'il va réussir à dormir? Il ne peut pas réussir à dormir. Sauf si il a quelque chose. C'est qu'il est tranquille intérieurement. Celui qui est tranquille intérieurement, il a des problèmes, comme tout le monde. Mais il peut réussir à dormir. Il peut réussir à manger. Il peut réussir à continuer, entre guillemets, sa vie. Alors que quelqu'un qui n'est pas apaisé, qui n'est pas rassuré, il va te dire, moi je n'ai pas d'appétit, je ne mange pas. Ça fait deux jours que tu n'as pas mangé. Ah, mais moi, j'arrive pas, j'ai plus d'appétit à cause de ce problème et tout. Réel? Tu dors? Non, je dors pas, moi, c'est fini, j'arrive plus à dormir. Ben, essaye, force-toi, mais j'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tranquille. Il est sous pression, il y a le stress. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est quelque chose qu'on doit dompter en nous. Ça vient comment? Et à ça, à force d'expérience. Une fois, j'ai eu un problème, et je me suis forcé à le gérer de cette manière, à être tranquille, etc. Une autre fois, jusqu'à ce qu'on fasse des efforts et qu'on arrive à un stade où il peut arriver ce qui va arriver. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Regardez. Donc ça prouve que les compagnons, ils ont atteint ce stade où il peut se passer ce qui va se passer. Ils sont tranquilles, ils le sont sincèrement. Et ils le sont d'autant plus pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si cette sécurité, l'amana, et cette sieste, l'nu'as, ils arrivent à la voir sur le rocher, eh bien ils n'arrivent à la voir qu'après avoir la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien toujours vivant. Ensuite, il ne faut pas se mentir. Cette paix intérieure et cette sieste, elles ont été données par Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ. Et il a fait descendre sur vous. Qui ? Allah. C'est lui qui a fait descendre sur vous. أَمَنَةً نُعَاسَ. Une paix, une tranquillité intérieure, نُعَاسَ. T'es capable de نُعَاسَ alors que عندك المشاكل. T'es capable de dormir alors que t'as des problèmes. Alors ça, c'est pas... Quelqu'un qui arrive à dormir alors qu'il a des graves problèmes, إِمَّا وَحَدْ مُصَطِّي. Soit c'est quelqu'un qui est fou, il n'a pas conscience de ce qui lui arrive. Soit c'est quelqu'un, il a tellement conscience de ce qui lui arrive, mais il est apaisé, alhamdulillah. Soit il n'a pas conscience, il est à l'ouest, il ne se rend pas compte. Ou soit il se rend très bien compte, mais alhamdulillah, il a la sécurité intérieure. Il n'y a pas une troisième option. Non. Bon, la troisième option, c'est qu'on lui a fait boire des somnifères, mais sinon, j'en vois pas d'autre. Non. Donc, c'est Allah Azza wa Jalla qui leur a donné ça. Et Allah, il le donne à qui il veut. Ça fait partie des bienfaits d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et c'est pour ça que une des clés aussi, pour ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à réussir à obtenir ce degré où tu arrives à être tranquille malgré tout ce qui va t'atteindre, il faut le demander à Allah parce que c'est Allah qui le donne. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً. أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ. C'est Allah qui vous le donne. Donc il faut le demander à Allah pour qu'il nous le donne. Il faut invoquer Allah Azza wa Jalla tout le temps pour qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la tranquillité des cœurs. Même si on a des indices dans le Coran, comment la voir ? الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Ceux qui ont la foi, c'est à travers le rappel d'Allah que se tranquillise le cœur. On a deux choses, la foi et le rappel, الذِكْر. قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ التَّسْبِيحُ. المهم الذِكْر, de manière générale. Si tu as ces deux choses-là, la foi plus le dhikr, alors ton cœur il va être tranquille. Et c'est tellement vrai qu'Allah juste après il dit أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. N'est-ce pas à travers le rappel d'Allah que se tranquillise le cœur ? Si Allah Azza wa Jalla pose la question, c'est une question rhétorique. C'est pas une question où on attend une réponse. Hein ? C'est une question où c'est tellement évident. Voilà. C'est pas ça ? Ah, t'es obligé de dire bah oui, c'est ça. C'est une question rhétorique, c'est une question qui n'attend pas de réponse. C'est une question rhétorique. Non. Ala kulli hal, et donc, cet événement, il nous indique aussi une chose, c'est que Allah Azza wa Jalla leur a permis à un moment où ils en avaient le plus besoin. Parce que la bataille, elle est certes perdue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, il faut défendre la ville de Médine. Maintenant, il faut récupérer les corps. Il faut les enterrer. Ah, c'est pas facile, hein, physiquement. On a déjà tout donné, on est blessé, on est éreinté. Et maintenant, il va falloir retourner à Médine. Avant, les gens, ils marchaient, ils avaient juste des montures. Il n'y avait pas l'hélicoptère ou l'avion, ça n'existait pas encore. Et ils vont devoir s'occuper des corps. Il faut les enterrer, ça aussi, ça demande de la force. Il faut creuser, il faut... Bref, il y a beaucoup de choses. Il faut s'occuper des blessés. Il faut ramasser ce qu'il y a à ramasser, leur matériel, etc. Et le prendre. Donc ça va demander beaucoup d'efforts physiques. Le plus gros, entre guillemets, reste à venir. Et là, ils ont tout donné, ils n'ont plus rien. Et donc Allah Azza wa Jalla leur a donné aussi cette sieste pour qu'ils puissent récupérer en force pour pouvoir aller faire ce qu'il y a à faire. Non. Et ça... On a besoin de force physique. Dans de nombreux événements de notre vie, on a besoin de force physique. Donc il faut physiquement se préparer quand on doit faire quelque chose. On aura besoin de son physique. Si c'est son mental qu'on a besoin dans un quelque chose, alors on prépare aussi son mental. Mais le muhim, ça nous indique aussi que le musulman, quand il a un objectif, et qu'il sait que pour arriver à cet objectif, il doit se préparer ou se former... Mouhim, il doit faire une cause, qu'elle soit physique, mentale, peu importe, apprentissage, eh bien, il fait d'abord la cause et ensuite, bon, il essaye d'atteindre l'objectif qu'il veut. Ah ben, celui qui arrive et qui attend que ça tombe du ciel, ça ne va pas le faire. Donc, ça nous indique aussi ça, cet événement et ce verset qui a été révélé par Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Imran. Non. Alors que celui qui est fainéant, celui qui attend que ça arrive et qui attend que les autres fassent. Peut-être une fois ils vont lui faire, une deuxième fois. Au bout d'un moment, khlas, yani. Combien de fois ils vont. Les fainéants, ça fait rappeler une histoire sur les fainéants qui se serait passé. On raconte cette anecdote, mais on ne sait pas si elle s'est vraiment passée ou pas, mais qui se serait passé pendant un des califes, certains disent le calife Haroun al-Rashid, pendant un des califes de la dynastie des Abbasides. Non. Et on dit que, par contre, ça, cette première partie de l'histoire, elle est vraie. On dit que Haroun al-Rashid, certains se sont plaints que dans les rues de Bagdad, donc Bagdad c'est une grande ville avec des centaines de milliers, et plus tard même ça va atteindre plusieurs millions d'habitants déjà, pour l'époque c'est quelque chose de fou, d'avoir une grande ville qui a atteint autant d'habitants. Et donc on a dit à Haroun al-Rashid, dans la ville de Bagdad, il y a des gens qui vivent dans la rue, et dont personne ne subvient à leurs besoins parce que c'est des vieux, c'est des vieillards. On ne sait pas s'ils ont été abandonnés par leur famille, on ne sait pas s'ils n'ont plus de famille. Bref, en tout cas, ils sont là, il n'y a personne qui s'occupe d'eux, et de toute façon, ils sont pas capables de s'occuper d'eux-mêmes, de travailler, etc. Il n'y avait pas encore la retraite à l'époque, il n'y avait pas encore les maisons de retraite. Et c'est Haroun al-Rashid, le premier à avoir pensé à cette idée de maison de retraite. Et c'est des personnes, bien sûr, la logique, la cohérence à l'époque, c'était que les familles s'occupent de leurs personnes. Ils avaient le devoir de s'occuper de leurs personnes âgées. Mais quand on avait dans une grande ville comme ça des gens, certains ils avaient perdu la mémoire, donc ils n'étaient pas capables de dire même comment ils s'appelaient ou c'est qui leur famille, où ils habitaient, mais qu'on les récupérait, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il a dit, il faut construire un établissement dans lequel on regroupe ces gens-là et on s'occupe d'eux, on les entretient, on les nourrit, on les abreuve, etc. Et donc ils avaient droit à 3 repas par jour, et ils avaient droit à dormir dans cet endroit-là pour se protéger soit de la chaleur, soit du froid la nuit. Non. Sauf que le problème, c'est que quand cet établissement il a été construit, ça a attiré d'autres personnes. Ça a attiré qui? Des gens qui sont jeunes, qui sont sahih, mais qui étaient fainéants. Et donc ils se disaient, là-bas, tu peux dormir au chaud, hein, sans rien payer comme loyer. Et tu peux manger gratuitement sans rien payer, et donc sans travailler, parce que ce qui pose problème aux fainéants, c'est de devoir travailler pour avoir quelque chose. Et donc cet établissement il a commencé à se remplir de personnes à tel point que les gens ils ont appelé l'établissement des fainéants. Et un jour le calife il est parti rendre visite pour voir si ça se passait bien, et quand il est rentré il dit, mais c'est quoi ça? Et on avait dit c'était pour les personnes âgées qui étaient abandonnées, etc. Et lui il n'a pas l'air... À la rigueur, s'il est malade et pas capable physiquement et qu'il n'a pas de famille pour s'occuper de lui, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que... Et donc les responsables du centre, de l'établissement, ils ont dit, écoute, en tout cas, ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils sont malades, etc. Haroun al-Rashid, ou en tout cas le calife qui était concerné, il a demandé à une équipe de médecins de venir et de ausculter tout le monde et de dire qui, est-ce que vraiment toutes ces personnes, ils étaient en incapacité physique, ils étaient invalides. Donc évidemment, il y avait une partie, les vieux, etc., qui étaient invalides. Et par contre, la majorité, hein, ils ont mis, par contre, ils ont juste une maladie, une pathologie grave, qui s'appelle la fainéantise. Sinon, en dehors de ça, tout va bien. Ils peuvent travailler. Et donc le calife a dit, nous, on a du travail à leur donner, si c'est juste ça. Soit ils travaillent, soit vous les ramenez au fleuve de Dajla, et vous les noyez là-bas. Allez, Rachid a fait ça pour leur faire peur. Là, c'est la partie de l'anecdote qui commence, on ne sait pas si c'est arrivé pour de vrai ou pas. Et donc, les qui sont venus, les gardes, ils les ont... Alors, vous choisissez, le calife a dit, vous choisissez soit le travail, soit vous êtes noyés. Ils ont dit, ah non, nous, on veut être noyés. Et bien, ils sont fainéants, Yanni, à un tel point que même en mourir, ou travailler, à mourir, aussi. Si c'est travailler ou mourir, marhaba bil mouta, c'est-à-dire, ramène-moi. Donc ils les ont rassemblés, ils sont partis. Et en chemin, il y a un homme riche. Il voit le bourreau qui les ramène et qui leur dit, vous allez mourir, ça vous apprendra, etc. C'est tout ce que vous avez mérité. Le riche, il demande au bourreau, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme grave crime pour mériter la peine de mort? Et le bourreau lui explique, il dit, on va les amener pour être noyés dans le fleuve, parce que le calife, il leur a dit, ils étaient dans l'établissement où on leur payait gratuitement les plats et tout ça, le logis, il leur a proposé, voilà, vous allez tous avoir un travail, en échange, vous pourrez avoir votre loyer, vous pourrez avoir votre maison, vous pourrez faire votre vie, hein, c'est comme tout le monde. Et ils ont refusé, ils ont dit, nous, on préfère mourir. C'est soit ça, soit la mort, ils ont dit, nous, on préfère mourir. Pas eu. Donc on les ramène pour mourir. Et lui, le riche, il dit, mais non, c'est pas possible. Vous n'allez pas tuer des gens juste parce qu'ils ne veulent pas travailler. Si ça coûte trop cher pour le calife, moi, je m'engage à partir d'aujourd'hui à leur payer ce que le calife leur payait avant dans cet établissement. C'est moi qui vais leur payer. Mais non, il ne faut pas tuer des gens juste pour ça. Le bourreau, il dit, c'est-à-dire tu vas payer. Il dit, bah, moi, j'ai une grande ferme dans laquelle j'ai du bétail. Et de toute façon, tous les jours, je ramasse des restes dans les restaurants, dans les mohim, dans la ville de Bagdad. On me donne des restes pour pas qu'il y ait du gaspillage, du pain sec, etc. Et je leur pose au bétail. Et ben, je vais les mettre dans cette ferme. Il y a des arbres, ils pourront dormir sous les arbres. Et s'ils veulent manger, il y aura le reste avec le bétail. Donc d'une certaine manière, c'est pas forcément élogieux. C'est comme du bétail, on va les mettre avec les animaux. Et les fainéants, et certains parmi eux, ils disent, ah, c'est une bonne idée, mais attends. Avant qu'on fasse un contrat avec toi, pour eux c'est un contrat, hein. Avant qu'on s'engage avec toi, le pain, quand il est sec, qu'est-ce qui le ramollit? Il faut le mettre dans l'eau, il faut le ramollir. Non, on ne peut pas le manger comme ça, comme les vaches et tout ça. Qu'est-ce qui va le ramollir? Le riche, il regarde, vous aurez de l'eau et vous le ramollissez. Ah non, nous, si tu veux qu'on accepte ce contrat, il faut que tu nous le ramollisses. Là, ils sont trop fainéants pour le ramollir. Donc là, il va regarder le bourreau et il va dire, vas-y, pas. Et donc, va les ramollir eux dans le fleuve de Dijla. Ala kulli hal. Ou comme un poète disait, certains ils ont parlé de ça dans leur poésie. Les Arabes, ils parlaient de tout dans leur poésie. Ils disaient, An-nawm wal-kasal, ahla madhaqan min asal, illam tusaddiqni fasal, qabli man kana dha kasal. Dormir et être fainéant, c'est plus bon dans le goût que le miel. C'est encore plus sucré que le miel. Ah, dormir et rien faire, être fainéant, c'est mieux encore que le miel. C'est plus bon, plus sucré que le miel. Et si tu ne me crois pas, alors demande. Demande à qui? Il dit, qabli man kana dha kasal. Demande à ceux avant moi qui ont vécu toute leur vie en étant fainéants. Quelle belle vie, yani, ce qu'il veut dire, c'est ça. Gharib, yani. Certains, ils ont été jusque-là. Et évidemment, non. Évidemment, non. Le Coran, il nous dit, wa qul i'malu. Et dites, œuvrez, faites. Et rien ne peut arriver, on ne peut rien obtenir sans l'effort. Sans l'effort. Sans faire quelque chose, c'est pas possible. Même ceux qui ont les choses grâce à l'argent, ça marche souvent parce que alhamdoulillah, ils ont l'argent. Je veux ça, je l'ai. Je veux ça, je l'ai. Je paye. Un jour ou l'autre, il arrive quelque chose où pour l'obtenir, tout l'argent du monde ne servira à rien. Il faudra qu'il se bouge un petit peu. Non. Ala kulli hal, on va s'arrêter sur ça pour aujourd'hui. Donc là, on a vu ce qui s'est passé sur le rocher. On va, à partir de la semaine prochaine, se poser une question. C'est, et sur le champ de bataille, maintenant qu'il n'y a plus de compagnons vivants, il y a soit des morts, soit des blessés, et qu'ils sont à la merci des idolâtres. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? Ça, c'est ce que nous verrons. La fois prochaine, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.